Le journal Loïc Barrière. Les musulmans de France connaîtront ce soir la date de l'Aïd el-Fitr. L'annonce sera faite en direct sur Radio Orient depuis la Grande Mosquée de Paris. Au moins 85 morts dans une bousculade au Yémen. Le drame a eu lieu lors d'une distribution d'argent. En Tunisie, le leader des Nahda, placé sous mandat de dépôt, entretient avec Souheir Belhassen, présidente d'honneur de la Fédération internationale des droits humains en Tunisie. Enfin, Emmanuel Macron annonce une hausse de plus de 200 euros pour les enseignants. La nuit du doute, ce soir, les fédérations musulmanes se réuniront à la Grande Mosquée de Paris avec leurs commissions religieuses et des imams du Conseil national des imams. Il s'agira de fixer la date de la fête de l'Aïd el-Fitr, marquant la fin du mois de Ramadan, un moment que vous pourrez vivre tout à l'heure en direct sur Radio Orient, sur radioorient.com et sur notre page Facebook. Le Yémen endeuillé, une bousculade a fait au moins 85 morts et des centaines de blessés ce jeudi à Sanaa. Cela s'est passé lors d'une action humanitaire avant l'Aïd el-Fitr. Des centaines de personnes s'étaient rassemblées dans une école de la capitale pour recevoir une aide de 5000 rials, soit 8 dollars. Le drame est survenu lors d'un mouvement de foule. L'arrestation lundi soir du chef des Nahda en Tunisie, Rached Ranouchi, suscite de nombreuses réactions. Il a été placé sous mandat de dépôt. Les arrestations dans les rangs des opposants se multiplient depuis février en Tunisie. Le porte-parole de la diplomatie américaine estime que ces arrestations d'opposants politiques représentent une escalade inquiétante. Autre réaction, celle de la présidente d'honneur de la Fédération internationale des droits humains en Tunisie, Souheir Belhassen.
Je suis sidérée par ce qui se passe, par l'atmosphère de peur et d'angoisse qui règne aujourd'hui en Tunisie. Parce que il faut vous dire qu'il y a aujourd'hui 91 personnes, très exactement, qui sont depuis février dernier, qui sont poursuivies. Sur les 91 personnes, il y en a une vingtaine qui sont en prison aujourd'hui. Et pas des moindres, c'est-à-dire des chefs de parti, des journalistes, des hommes d'affaires, des personnes de tous horizons d'importance. Ce n'est pas des chefs de parti, bon, qu'ils appartiennent au parti islamiste ou qu'ils appartiennent, que ce soit des personnes de gauche. Le pouvoir ne fait pas la part des choses. On a l'impression que c'est une répression aveugle qui touche tout le monde et une répression qui peut entraîner, en tous les cas, des condamnations énormes qui vont aller jusqu'à la peine de mort. Parce que les chefs d'accusation d'atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l'État est quelque chose d'extrêmement grave qui peut entraîner la condamnation à mort. On n'a pas plus de détails depuis déjà février, mars, avril, donc ça fait 3 mois, maintenant que les coups de filet ont commencé. Est-ce quel sens ces coups de filet ont? C'est une question d'élimination des opposants réel ou potentiel à Raïs Saïd, le président, qui, lui, a une véritable stratégie d'élimination de ses adversaires politiques. Après avoir mis en place la nouvelle AFP, qui n'est pas contestée, mais qui n'est représentative de rien du tout, puisqu'elle a été élue avec une participation, comme vous le savez, de 11% de l'électorat. Surtout, il y a eu l'élimination de tous les présidents de municipalités, de collectivités régionales, ce qui est absolument effrayant, c'est-à-dire qu'on est devant une situation qu'on n'a jamais vue auparavant avec des régimes de dictature comme celui de Ben Ali, pour ne citer que celui-là. Donc, si vous voulez, nous sommes devant une nouvelle situation, réellement.
Comment interprétez-vous l'arrestation du chef d'Ennahda, Rached Ranouchi?
C'est, je pense, pour Saïd, puisqu'on parlait de stratégie, c'est la fin d'une stratégie. C'est un peu bouclé toute l'entreprise. Ranouchi, il y est arrivé par étapes. On dit c'est surprenant, pourquoi Ranouchi aujourd'hui? Mais parce qu'il a fini, il a finalement arrêté les têtes pensantes d'Ennahda, pratiquement toutes les personnalités importantes d'Ennahda restaient que Rached Ranouchi. Alors lui, il a joué la provoque. Ça, c'est clair que Ranouchi a joué la provoque en disant qu'il y aura la guerre civile si Kaysaïd continue. Alors, qu'est-ce que ça veut dire s'il y a une guerre civile, de menacer de guerre? Est-ce que c'est une menace de guerre civile venant de Ranouchi? Ce n'est pas innocent, c'est clair. Est-ce que, en le disant, il voulait avoir la couronne de martyr lui aussi, parce que tous les gros dirigeants de Nava ont été arrêtés, et à droite et à gauche du panel politique, pratiquement tous les dirigeants ont été arrêtés. Restait que Ranouchi, qui était en quelque sorte un peu marginalisé. Il y a peut-être, pour répondre à votre question, chez Ranouchi, c'est lui qui a voulu avoir cette couronne de martyr et se faire arrêter. Maintenant, pour Kaysaïd, c'est vrai que c'était le but final. Et là, on pense que vraiment, réellement, il l'a atteint en dégageant la voie pour atteindre ce but-là.
Vous évoquez une atmosphère de peur. Se ressent-elle également dans le monde associatif? Je rappelle que vous êtes la présidente d'honneur de la FIDH.
C'est clair. Écoutez, les menaces, nous le ressentons à tous les niveaux. C'est-à-dire, c'est surtout les menaces de financement. Et ça, les banques aujourd'hui osent demander quel est l'objectif de l'association, alors que ce n'est pas du tout leur rôle, pour que les associations puissent avoir leur financement qui vient de l'extérieur. Tout à fait clairement, dans les règles de l'art, etc., on sent et on a des démarches, toute la société civile est menacée. Et ce n'est pas seulement menacé, il y a eu des personnes qui ont été arrêtées. Il y a notre amie et dirigeante de la TFD qui a été pas seulement menacée, mais elle est citée dans les derniers dossiers et des dernières arrestations. On a vu une militante être arrêtée, c'est Chaïma, qui est la première femme politique à être arrêtée depuis la Révolution. Et ça, c'est quand même très symbolique. Donc, tout cela, si vous voulez, met une atmosphère non pas seulement de panique, mais réellement de peur. Kaysaïd a démontré que rien ne le faisait reculer. Rien ni personne. Donc, même les pressions étrangères n'ont pas beaucoup d'effet. Étrangères, j'entends, et pas des moindres. Quand même, les États-Unis ont haussé la voix de façon assez dure. L'Union européenne également. Et même les voisins nord-méditerranéens ont aussi exprimé leur désaccord sur la ligne adoptée par Kaysaïd.
Et ce mardi, la France a évoqué une vague d'arrestations préoccupantes, selon les mots du Quai d'Orsay.
Oui, préoccupante est un gentil mot, réellement. Et la France, sur tout cela, n'est pas en avance. Hein. Comme toujours, les intérêts et la voix de la France est déterminante au niveau de l'Union européenne, parce qu'on s'aligne, parce que c'est le partenaire le plus proche de la Tunisie et qui donne le « là ». Mais là, la France est extrêmement prudente, malgré la déclaration que vous venez de citer et qui est, bon, on n'est pas seulement préoccupé, on est sous une chape de plomb qui nous est tombée dessus. Je ne parle pas seulement pour les militants des droits de l'homme, les politiques, les journalistes, c'est tous azimuts les arrestations. Les hommes d'affaires, ne reste plus personne qui ne soit pas visé. Au nom de quoi? Au nom du peuple. Le peuple désire, alors ça va très loin. C'est sans règles précises et les accusations, comme je vous l'ai dit, sont énormes. Et en plus, ce que nous constatons, nous, en tous les cas, c'est que les stratégies anciennes de la Tunisie sont remises en question. Et ça, on ne fait pas assez attention. C'est-à-dire qu'il y a un retournement des liens traditionnels de la Tunisie avec ce qu'on appelle les pays occidentaux, c'est-à-dire les États-Unis, la France, etc.
Souher Belhassen, présidente d'honneur de la Fédération internationale des droits humains en Tunisie, elle répondait à François-Xavier de Calonne. La commission mixte composée d'historiens français et algériens s'est réunie pour la première fois. Cela a été annoncé par l'Élysée. Cette commission indépendante travaillera d'abord sur les origines de la colonisation française en Algérie au XIXe siècle. Les historiens des deux pays s'intéresseront par la suite à la période du XXe siècle. Le parquet national antiterroriste a réclamé la réclusion criminelle à perpétuité contre Hassan Diab, l'unique accusé dans le procès de l'attentat contre la synagogue de la rue Copernic à Paris. C'était en 1980. L'accusé, jugé par contumace, est âgé de 69 ans. En visite dans l'Hérault, Emmanuel Macron a annoncé une hausse du salaire des enseignants sur une fourchette située entre 100 et 230 euros net par mois. Cette hausse s'accompagnera d'une augmentation liée à de nouvelles missions basées sur la base du volontariat. L'invité de Pluriel, mercredi soir, était Alma Dufour, députée LFI NUPES de la 4e circonscription de Seine-Maritime. Elle évoque l'entrée en vigueur de la ZFE, la zone à faible émission, dans la métropole de Rouen, un sujet angoissant pour les habitants qui possèdent des véhicules polluants. Alma Dufour.
Pour le calendrier, malheureusement, officiellement, l'interdiction de circulation des véhicules critère 4 et critère 5 sur Rouen et sur certaines communes limitrophes de Rouen est déjà en vigueur. Donc aujourd'hui, vous êtes un habitant d'Elbeuf, vous voulez vous rendre sur Rouen et votre véhicule est critère 4 ou critère 5, officiellement, vous n'avez pas le droit de circuler à partir de Grand Quevilly. Néanmoins, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que je vais là aussi être assez franche. En fait, à la fois la préfecture et à la fois les mairies et notamment la métropole de Rouen et son président savent pertinemment que le dispositif en l'état est inapplicable. Inapplicable parce que les aides sont complètement insuffisantes pour vous acheter un véhicule critère 1, critère 2 ou critère 3. Qu'en plus les véhicules, notamment électriques, les prix ont augmenté justement avec l'entrée en vigueur des ZFE, ce qui fait qu'aujourd'hui ils absorbent les aides. C'est les constructeurs automobiles qui absorbent les aides, mais le reste à charge pour un ménage est toujours aussi important. Les seuils sont complètement loufoques, c'est-à-dire que vous avez le maximum des aides si vous êtes au RSA. Mais en fait, dès que vous dépassez un peu le SMIC, vous avez quasiment plus le droit à grand-chose. Enfin, je veux dire, un ménage en ce moment ne s'en sort pas. Et en plus, avec l'inflation, enfin, je veux dire, ça c'est pas praticable. Donc en fait, les autorités le savent, c'est juste qu'ils ne le disent pas parce qu'ils veulent pas reconnaître qu'ils veulent pas reculer. Donc moi je sais que les habitants de ma circonscription sont angoissés. Donc moi j'essaie de les rassurer en leur disant que pour l'instant il n'y a pas de contrôle effectif. Et puis surtout, nous on est opposés, on demande un vrai moratoire déjà parce que c'est hypocrite. Et deuxièmement, aujourd'hui il y a plein d'incohérences écologiques au dispositif qui ne sont pas réglées. Et notamment, moi je veux bien qu'on mette en place une ZFE, mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on attend pour nous dire quand est-ce qu'on aura l'extension du métro? Notamment jusqu'à Elbeuf, en tout cas du train jusqu'à Elbeuf. Ressusciter la ligne Rouen-Elbeuf, ça fait 50 ans qu'on en parle, c'est toujours pas fait. Ça, c'est de la vraie écologie. Et ça, par contre, il n'y a aucun engagement ferme de l'État, aucun engagement ferme de la région. On ne sait pas, la métropole ne sait pas si on aura ou pas un métro, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, c'est de l'arnaque et à un moment donné, effectivement, oui, les habitants de ma circonscription, qui sont quand même des ménages plutôt modestes, sont pénalisés, ouais.
Alma Dufour, députée LFI NUPES de la 4e circonscription de Seine-Maritime, elle était l'invitée de Pluriel hier soir, émission que vous pouvez retrouver sur radioorient.com. Le Parlement des écrivaines francophones, fondé par Fawzia Zouhari, organise une soirée littéraire et musicale demain soir au Kibélé, 12 rue de l'Échiquier à Paris. Parmi les invités, la chanteuse et écrivaine Victor Laszlo et la romancière Georgia Marlouf. Pour nous en parler, l'organisatrice de cette rencontre, Louise Lambrix.
Ça rassemble des femmes qui écrivent en français de la poésie, des romans, des récits, des essais, sur tous les continents. Et c'est un lieu que j'ai trouvé très sympathique et j'ai été invitée justement à participer à un cabaret qui avait lieu. Et c'est pour ça que je me suis aussi portée candidate pour organiser celui-ci. Ce que j'aime beaucoup dans ce Parlement, c'est la mentalité. Il y a une mentalité qui est à la fois très vivante, très ouverte, et où les unes et les autres ne sont pas en rivalité. Chacune fait ce qu'elle fait, chacune écrit ce qu'elle écrit, et puis, au fond, on avance ensemble avec ça, dans une diversité des singularités qui se répondent, qui s'écoutent, et on n'est pas dans des logiques, je dirais, ni commerciales, ni de rivalité narcissique, on va dire, puisque c'est très à la mode de parler du narcissisme supposé très développé des auteurs. Or, je crois que c'est souvent pas le cas du tout, justement. Je dois dire que, personnellement, j'ai jamais trouvé que la catégorie de littérature féminine qui a été très développée ces dernières décennies était pertinente. Je pense que les femmes peuvent décrire la grande littérature comme les hommes. Simplement que quand les femmes se sont mises à plus écrire, tout d'un coup on a découvert qu'elles étaient capables d'écrire et on a parlé de littérature féminine. Mais je trouve que c'est une catégorie très problématique. Si ce n'est que la littérature, c'est peut-être féminin pour tout le monde, y compris pour les hommes. Ben que c'est la dimension, on pourrait dire, culturellement attribuée généralement aux femmes, c'est-à-dire la sensibilité, l'émotivité, etc., et toutes ces catégories. Alors ça, c'est des préjugés culturels. Mais que toute cette dimension qui est jugée en général féminine et qui s'exprime ou se traduit dans la littérature, voilà, c'est peut-être aussi le côté féminin des hommes qui ne peut pas s'exprimer autrement que par la littérature, puisque dans la société, ce n'est pas entendu aussi.
Louise Lambrix, elle organise cette soirée littéraire et musicale du Parlement des écrivaines francophones ce vendredi à 20h au Kibélé, 12 rue de l'Échiquier à Paris. Enfin, la fusée Starship a explosé en vol peu après son décollage. Ce vaisseau a été développé par SpaceX, l'entreprise d'Elon Musk, pour des voyages vers la Lune et la planète Mars. À 18h30, le journal en arabe de Roger Khoury et l'annonce depuis la Grande Mosquée de Paris concernant la date de l'Aïd el-Fitr. Et si on en parlait à 19h, le sujet de l'émission ce soir, désordre stratégique, nouvelle guerre française. Quel ordre mondial après l'invasion russe en Ukraine? Alexis Bachelet reçoit Maya Kadra, journaliste et enseignante, et Qatar Aboudiab, politologue, consultant en géopolitique. Émission rediffusée samedi à 10h. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de Radio Orient.